Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle journée. Alors aujourd'hui, nous allons être très très attentifs à bien cadrer les interventions des participants. C'est quelquefois un peu difficile puisque les participants ont souvent énormément de choses à dire, ont préparé des choses absolument formidables, mais néanmoins, pour la bonne tenue de nos rencontres, nous allons véritablement appliquer vraiment la loi des 40 minutes de façon à ce que vous puissiez aller visiter le stand Oreas pour renouveler vos logiciels, que vous puissiez aller voir Nicole et André Brère aux éditions traditionnelles et que vous puissiez effectivement aller au stand Source. Voilà. Et que vous puissiez aussi profiter des intermèdes musicaux interprétés par Yorgos Delphis et Marie Dauphin qui ont préparé de belles choses. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une belle journée. Et je passe la parole à Yves qui va présenter notre ami Fabrice Pascaud.
Bonjour à toutes et à tous. Dès l'adolescence, Fabrice Pascaud découvre l'astrologie en lisant des ouvrages d'André Barbeau et de Charles Vougas et en suivant des cours d'astrologie avec Claire Jacquin. Il se passionne également à la même époque pour le tarot. Et cela fait maintenant une trentaine d'années qu'il donne des consultations et d'astrologie et de tarot. Fabrice écrit sur son site que sa passion pour le surréalisme et l'œuvre d'André Breton n'a jamais décliné depuis sa prime adolescence. J'avais beaucoup apprécié en 1998 le bel article de Fabrice sur André Breton dans le numéro 122 de la revue L'Astrologue, revue à laquelle Fabrice collabore depuis de longues années. Je pense que ceux qui seraient intéressés trouveront cet article au stand des éditions traditionnelles. Fabrice s'intéresse toujours à cet écrivain car il estime que la portée, l'amplitude et la richesse de la pensée d'André Breton restent encore à explorer et à comprendre tant elle offre d'ouverture sur le monde sensible. Je suis sûr qu'il va nous faire entrer dans le monde du fondateur du surréalisme qui se passionnait tant pour l'astrologie. Fabrice, tu nous as proposé comme titre de ton intervention le féminin, pôle magnétique dans l'œuvre d'André Breton. Je te laisse la parole.
Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous, et puis merci d'être venus aussi nombreux ce matin pour ces rencontres astrologiques. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui parce que l'occasion m'est donnée de vous parler d'un homme dont la rencontre dans mon existence a été déterminante. Et j'en profite pour remercier Catherine parce que, en fin de compte, c'est elle qui a eu cette idée de me proposer de parler du féminin dans l'œuvre d'André Breton. Alors, le sujet va être compliqué parce que, en fin de compte, l'œuvre d'André Breton, c'est quand même 4 tomes dans la Pléiade. C'est quand même considérable. Donc, déjà, c'est le sujet d'un colloque, en fin de compte. Ce qui fait que ça m'a obligé à trouver un autre cheminement pour vous présenter à la fois l'amplitude de cet homme et en même temps centrer mon propos sur le féminin. Alors tout d'abord, vous avez tous entendu le nom d'André Breton, il a été cité maintes et maintes fois, auquel on accole souvent pape du surréalisme, ce qui est quand même en soi assez grotesque quand on connaît un petit peu l'itinéraire de l'homme. Et évidemment, quand on parle d'André Breton, on parle immédiatement du surréalisme, les deux étant indissociables, puisqu'il a été le fondateur et le principal théoricien de ce mouvement. Alors, en fait, le surréalisme, qu'est-ce que c'est? Parce que le mot, vous l'avez entendu, il est rentré dans le langage populaire, situation surréaliste, ambiance à l'Assemblée nationale surréaliste, et j'en passe. En fin de compte, on emploie ce mot pour qualifier une situation de grotesque, d'incongru, de loufoque ou de mystérieuse. En fait, le surréalisme, ce n'est rien de tout cela. Et pour m'aider, je vais vous donner la première définition qu'on a donnée André Breton dans le manifeste de 1924. Début de la définition, surréalisme non masculin, automatisme psychique pur, par lequel on se propose d'exprimer soit verbalement, soit par écrit, le fonctionnement réel de la pensée, dictée de la pensée en dehors de toute préoccupation esthétique ou morale. Fin de la définition. Donc, comme vous le voyez, on est loin de cette utilisation, on va dire, profane. Et puis, en 1930, il va davantage définir l'objectif du surréalisme dans le second manifeste qui sera publié donc en 1930, et il appellera cette quête le point sublime, et il désignera ainsi, tout porte à croire qu'il existe un certain point de l'esprit d'où la vie et la mort, le réel et l'imaginaire, le passé et le futur, le communicable et l'incommunicable cessent d'être perçus contradictoirement. Or, c'est en vain qu'on chercherait à l'activité surréaliste un autre espoir que la détermination de ce point. Et André Breton va être toute sa vie l'incarnation de cette quête, quête incessante pour parvenir à ce point sublime qui est en soi pratiquement inatteignable, mais c'est la quête qui est intéressante. Alors, on peut projeter le thème de Breton. Voilà, donc, André Breton est né le 19 février 1896 dans l'Orne, à Tingebray. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, je me suis amusé à regarder un petit peu les transits de ce jour. Et j'ai regardé surtout les significateurs sensibles féminins, puisque c'est le thème de notre rencontre. Et aujourd'hui, en fin de compte, nous avons en transit la Lune qui transite le signe du Verseau et qui transite le Mercure natal d'André Breton, là, oui. Et puis nous avons la conjonction Vénus-Jupiter en taureau, heureux les taureaux, hein, et qui transite la lune natale d'André Breton. À ceci s'ajoute le transit majeur de Neptune sur son soleil natal. Alors, donc tous les éléments liés à la féminité, à la féerie, sont donc au rendez-vous de cette journée. Et d'ailleurs, le transit de Neptune sur le soleil natal de Breton, à mon avis, il va falloir observer ça de très près, puisque vraisemblablement qu'il va y avoir une réémergence du surréalisme, de tout ce qui se rattache à lui, et vraisemblablement aussi peut-être un intérêt nouveau qui sera porté à l'œuvre d'André Breton, ou peut-être cette fois-ci elle sera lue d'une façon plus intelligente que ne l'a été jusqu'à présent. Alors, je vais vous inviter donc à partir en voyage avec moi, parce que, en fin de compte, le mot « œuvre », je vais essayer un petit peu de le redéfinir. Parce que pour André Breton, le surréalisme ne se réduisait pas uniquement à la création artistique. En fin de compte, le surréalisme, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'être au monde, c'est une pratique de la vie, c'est la manière dont nous percevons et interprétons la réalité. Car le surréalisme n'a jamais nié la réalité, au contraire, il l'intègre pour la dépasser et trouver cette surréalité au cœur de la réalité. Et alors, je vais donc vous inviter à ce voyage et vous montrer combien le mythe a participé et a donné du sens à la vie d'André Breton, car pour moi, un thème astrologique, c'est avant tout un théâtre mythologique. J'ai appris à interpréter un thème en étudiant les mythes, la mythologie, parce qu'avant, un trigone Jupiter-Mars, ça ne me disait rien du tout, ça ne me parlait pas. Par contre, quand j'ai étudié les mythes, Zeus qui rencontre Arès, Jupiter-Mars, là, ça me donnait une autre vision, ça créait une théâtralisation du thème, et là, le thème devenait vivant. Parce que je pars du fait que c'est le mythe qui crée notre réalité, c'est lui qui donne sens à notre présence au monde. Et on va voir combien chez André Breton ce mythe a participé. D'ailleurs, il dira dans un de ses livres qui s'intitule « Les vases communicants » « Toute erreur d'interprétation dans l'homme entraîne une erreur d'interprétation dans l'univers. Elle est par suite un obstacle à son évolution. » Fin de citation. Il n'a pas écrit cette phrase-là pour l'astrologie, mais tous les astrologues ici présents dans cette salle ne peuvent être que réceptifs à cette phrase. Alors, dans la vie, il y a des rencontres et puis il y a des rendez-vous. Alors, je vais m'aider de Raymond Abellio, quelques instants, qui avait fait une distinction entre la rencontre et le rendez-vous. Eh bien, la rencontre, c'est un moment de joie, de plaisir, d'intense émotion. On garde un souvenir de cette rencontre. on rentre chez soi, on dit à la personne avec qui nous partageons notre existence, oh, tu sais, aujourd'hui j'ai fait une belle rencontre. Mais ça s'inscrit dans le souvenir. Alors que le rendez-vous, lui, c'est une autre histoire. Le rendez-vous, c'est en fin de compte le mythe qui nous donne rendez-vous. Et nous allons à la rencontre du mythe parce que le mythe vient à notre rencontre. Et de ce rendez-vous-là, souvent, une existence peut basculer ou se définir différemment. Et pour André Breton, ce fut le cas. Nous sommes en 1912. André Breton est alors âgé de 16 ans. Il est au collège Chaptal. Il se destine vers la médecine et puis plus précisément la psychiatrie, mais il a le sentiment diffus que ce n'est pas là que se joue son destin, que la vraie vie, d'en parler Rimbaud, la vraie vie est absente, que sa vie se joue ailleurs. Et il a cette perception aiguë que ce monde court au chaos, et 2 ans plus tard, la Première Guerre mondiale allait éclater, c'est la génération qui allait être confrontée à cette boucherie terrible. Et tous ses futurs amis du groupe surréaliste, Aragon, Philippe Soupeau, André Masson, j'en passe, vont être propulsés et traumatisés par cette boucherie qu'a été la Première Guerre mondiale. Vous me direz, toutes les guerres sont des boucheries, mais cette guerre de front a été particulièrement terrible. Il a donc 16 ans et il aimait vagabonder dans les rues de Paris. Je vous ferai découvrir pourquoi Breton aimait tant errer à l'intérieur de la ville, qui est aussi un élément féminin. Et il a déjà une culture littéraire, poétique très forte, très, très fortement installée. Il a des points de résistance à lui très forts. Et il s'intéresse à la peinture. Il faut savoir qu'à l'âge de 19 ans, il avait pratiquement désigné toutes les futures grandes personnalités de la peinture, Picasso, Marcel Duchamp. Il a été le premier à faire une étude de Marcel Duchamp, alors que celui-ci était encore aux États-Unis. Je reviens, il a 16 ans. Et il se rend au lieu, à un point mythique de Paris, il se rend au musée Gustave Moreau. Il se trouve rue de la Rochefoucauld, à Paris. On peut avancer un tout petit peu, je crois qu'il doit y avoir des fous. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de vous rendre dans ce musée, je pense que oui, puisque je m'adresse à beaucoup d'astrologues. Sinon il faut quand même y aller, hein. Même si vous n'êtes pas sensible à la peinture de Moreau, vous êtes dans le monde de Sémélé, dans le monde de la fée au griffon, dans le monde de Prométhée. Le lieu est habité dans l'acception large du terme, puisque c'est le lieu où a vécu, peint et est parti Gustave Moreau. Il est imprégné de sa présence. C'est un endroit extraordinaire. On est coupé du monde, on est dans le monde du mythe. Et Breton, qui est un personnage hyper sensible et très attentif aux signes, va avoir son premier choc en ce lieu. Il a rendez-vous avec le mythe. Il est là, entouré par ce cortège de dieux, et il dira, et vous allez voir combien ce choc a été important, il dira, début de citation, « La découverte du musée Gustave Moreau, quand j'avais 16 ans, a conditionné pour toujours ma façon d'aimer. La beauté, l'amour, c'est là que j'en ai eu la révélation à travers quelques visages, quelques poses de femmes. Le type de ces femmes m'a probablement caché tous les autres. Ça a été l'envoûtement complet. » Fin de citation. Donc, à l'écoute de cette déclaration, on voit le retentissement que ce lieu a eu pour lui. Alors, si on revient à son thème, Vous allez être obligé de faire du yo-yo avec moi, mais bon, il faut juste revenir sur son thème, parce que je suis passé un petit peu vite. Alors je vais évidemment m'attarder sur la Lune, et puis sur Vénus principalement, parce que je suis obligé un petit peu de circonscrire mon propos. Alors vous avez une Vénus qui est en Capricorne, qui est dans la conjointe à Mars, en secteur 4, j'y reviendrai après, elle est au sesquicarré de Pluton. Et puis vous avez une lune en taureau, en secteur 7, dans son lieu d'exaltation, et elle est au carré de Mercure. Alors si on se porte maintenant, je vous demanderai juste de bien retenir la position de Vénus et la position de la lune, s'il vous plaît. Et maintenant j'aimerais qu'on bascule au thème de Gustave Moreau, s'il vous plaît. On y est là ? Oui, voilà. Alors, bon, bah, vous ne serez pas surpris de voir une conjonction Lune-Pluton qui culmine là-haut, hein, parce que d'abord la Lune était souvent représentée dans beaucoup de ces tableaux. C'est aussi l'attachement profond à sa mère. Et puis c'est aussi tout le mystère de la féminité, de la symbolique merveilleuse et magique de la femme chez Moreau. Et alors si on fait la synastrie du thème de Breton avec le thème de Moreau, on va être tout à fait frappé par une rencontre, c'est-à-dire que la Vénus capricornienne de Breton, si on la projette dans le thème de Gustave Moreau, qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, elle rencontre Monsieur Uranus, n'est-ce pas ? C'est pas loin de Neptune aussi, mais en même temps Uranus. Alors, Breton dit ça a été l'éblouissement, ça a été le choc, et là on a Vénus, donc le principe, je dirais, vénusien de Breton, qui rencontre le Prométhée de ce père du monde des dieux, de la mythologie. Donc ça a été l'éblouissement, comme je le dis, la révélation, le choc. Ça se passe quand même dans le signe du Capricorne, donc ça va s'inscrire, ça va être pérenne, cette rencontre-là. Elle va, je dirais, déterminer et conditionner tout son cheminement. Et il y a aussi un autre élément que j'avais noté, c'était le... Ben, ça y est, il suffit que je vous en parle et puis j'ai un blanc. Ça y est. Eh ben oui, m'excusez. Je vais mettre le nez dans mes notes. Je ne voudrais pas que ça soit interactif, parce que c'est quand même moi qui suis censé vous parler. Vous voyez comment je m'en sors.
Voilà, dans 3 secondes, il a trouvé.
C'est le Mercure de Moreau. Alors, Gustave Moreau, je voudrais qu'on voit son Mercure. Voilà, merci. Voilà. Et la Lune de Breton qui est en Taureau également. La conjonction est assez large, mais elle y est. Hein. Voilà. Donc, il y a aussi la rencontre Lune-Mercure. Donc, il y a aussi le principe lunaire, affectif, féminin de Breton, qui rencontre aussi le Mercure qui rencontre donc le Hermès de Gustave Moreau. Donc il y a là une interrelation du mythe, et le choc a été inouï. Hein. Il y a un autre personnage dans le monde surréaliste aussi qui a eu un choc avec Moreau, c'est Dali. Alors j'ai pas mis son thème, mais parce que l'anecdote m'est revenue dans le bus tout à l'heure. Et à chaque fois que Dali, à une époque, arrivait à Paris, il prenait le taxi et il disait au taxi « Conduisez-moi au musée Gustave Moreau ». Parce que la première fois que Dali a mis les pieds au musée Gustave Moreau, qu'il a vu l'étoile de Moreau, il s'est écrié « Papa ». Alors évidemment, on va se dire « Dali, il est un petit peu oblique, il est loufoque », mais non, pas du tout, parce que dans le thème de Dali, d'ailleurs on n'a pas fini d'en parler, parce qu'il y a une grande exposition à la fin de l'année à Beaubourg, et Dali a une lune en bélier au tout début, il reçoit le transit d'Uranus, et après il a un gros amas en taureau, donc on est parti pour en entendre parler pendant des années, alors qu'il a été un petit peu oublié ces derniers temps. Il va donc revenir à la surface. Et dans le thème de Dali, il y a une superposition jupitérienne avec la lune. Donc c'est papa, le dieu Zeus, papa. Voilà. C'est Dali, c'est ramassé, c'est concis, c'est du Dali. Alors, c'était une anecdote pour montrer la résonance que le mythe a dans l'existence de chacun. Et peu importe ce que nous faisons, on n'a pas besoin d'être artiste, créateur pour ça. Le mythe participe de notre réalité à un niveau de conscience qui est le nôtre. Alors je vais sauter encore un petit peu dans le temps, je vais poursuivre. Donc ce que je veux vous démontrer, c'est que l'œuvre chez Breton donc, est au cœur de la vie. Puisque par le surréalisme, il nous donne une clé et nous demande de partir à la redécouverte de nos pouvoirs perdus, pouvoirs qui sont en chacun de nous. C'est ce qui lui faisait dire, par exemple, qu'un menuisier peut être tout aussi surréaliste, voire plus, qu'un artiste peintre. Pourquoi ? Parce qu'il le sera par sa façon de vivre, sa façon de penser, sa façon d'agir. Et donc l'œuvre est au cœur de la vie. Alors il va y avoir un autre événement qui va encore cristalliser quelque chose chez André Breton. Nous allons avancer dans le temps, nous sommes en 1926. Entre-temps, Breton a créé le surréalisme, il l'a formulé, défini par la rédaction du premier manifeste qui est sorti en 1924. en octobre 24 pour être précis. Le mouvement est créé, la dynamique surréaliste est partie collective, parce que le surréalisme est aussi un projet collectif. Nous sommes en 1926 et Breton est toujours là, au hasard des rues, comme il le plaisait à dire, cherchant le signe, cherchant l'inconnu. Et cet inconnu, en octobre 1926, va se présenter à lui sous la personne de Nadja. Voilà. Alors Nadja, on a écrit beaucoup sur Nadja et je crois qu'on ne cessera jamais d'en parler. Il fut un temps où beaucoup ont cru que Nadja était en fait un personnage imaginaire, qu'il n'avait jamais existé, qu'il était né dans l'esprit de Breton. Et tous les jeunes gens de son époque étaient à la recherche de leur Nadja, en fin de compte. Mais Nadja a bel et bien existé. Il y a des correspondances qui existent maintenant, on a trouvé ça dans les archives André Breton. Je vous recommande la lecture du livre de Esther Albar qui a été publié aux éditions Actes Sud, qui s'intitule « Léona, héroïne du surréalisme » où elle a mené une grande, grande enquête, la seule qui a été faite sur Nadja. Donc Nadja, de son vrai nom, Nadja, Léona Camille Ghislaine Delcourt. Vous pouvez avancer un tout petit peu, voilà son thème. Alors j'ai réussi à obtenir l'heure de naissance en contactant l'auteur, donc Esther Albar, me l'a envoyé en dernière minute, mais l'heure de naissance est une heure arrondie, parce qu'à l'époque, rien n'est sûr. Donc c'est une heure approximative. Hein. Donc voilà un peu le thème de Nadja. Voilà. Alors Nadja, en fin de compte, Breton la rencontre rue Lafayette. L'après-midi, un petit peu de déambulation, comme il avait l'habitude de les avoir. Et il voit cette femme qui vient vers lui. Il l'arrête et il lui dit « Qui êtes-vous ?» Et elle lui répond « Je suis l'amérante. Je m'appelle Nadja. » Et Nadja, c'est le début du mot « espérance » en russe, et ce n'en est que le début. Et Nadja, eh bien, c'est l'incarnation de la femme avec tout l'éventail de ce que le surréalisme peut, je dirais, véhiculer dans son imaginaire et dans son fantasme. Nadja va être l'incarnation du féminin sur le plan mythique. Beaucoup ont vu dans Nadja un roman d'amour. Ce n'est pas un roman d'amour, d'abord c'est un récit, sur le plan d'abord purement littéraire, c'est un récit, ce n'est pas un roman. Et il ne faut surtout pas l'appréhender sous l'angle d'un récit d'amour. Ça va au-delà de ça. C'est pratique, c'est en fin de compte une rencontre initiatique, autant pour l'un que pour l'autre. Et quelque part, pour moi, Breton, excusez-moi le terme, synthétise deux mythes, en fin de compte. Alors, prenez ça avec infiniment de distance, synthétiser deux mythes, ça n'a pas de sens. Mais tout au moins, il incarne deux mythes, à la fois le mythe de Prométhée et le mythe de Merlin l'Enchanteur. Parce qu'il voulait réenchanter le monde, réenchanter la vie. Et en même temps, il y avait aussi la valeur prométhéenne, qui était à la fois, dans le sens propre, de redonner le feu à l'homme, mais aussi il y avait toutes les valeurs insurrectionnelles et révolutionnaires qu'adrénait le surréalisme. C'est-à-dire qu'il prenait la vie dans sa totalité. Ce n'était pas uniquement la quête intérieure et une fuite dans l'au-delà. Le surréalisme, d'ailleurs, a toujours renié l'existence d'un hypothétique au-delà. Breton disait « l'au-delà, tout l'au-delà est présent dans cette vie-ci ». Donc Nadja va être l'apparition dans la vie de Breton. Ils vont beaucoup errer dans les rues de Paris et Nadja va le confronter en fin de compte à des situations magiques. Ils se promèneront un jour dans le coin du Pont Neuf, ils s'arrêteront, elle lui dira « Regarde là cette fenêtre, elle va devenir rouge ». Et d'un seul coup, effectivement, la lampe s'allume. Et les vitres deviennent rouges, parce que les rideaux de cette maison avec la lumière ont donné du rouge, alors qu'un instant d'avant, elle était plongée dans l'obscurité. Breton va être complètement subjugué, agacé, parce qu'elle va mettre à épreuve, en fin de compte, à la fois ses résistances intellectuelles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il avait une formation de psychiatrie quand même, ce qui l'a quand même grandement gardé de verser dans des délires d'interprétation que l'écriture automatique surréaliste peut entraîner. Et en fin de compte, pour moi, Nadja, avec sa lune en Sagittaire, conjoint à Uranus, hein, voyez, et qui est dans l'axe d'opposition avec Pluton-Neptune, n'est-ce pas? Donc on a là vraiment une charge sur le plan du féminin absolument énorme. La charge est très très forte. Il faut savoir que Nadja avait une vie terrible, une vie sociale épouvantable. Je ne vais pas entrer dans les détails. Toujours est-il que sa vie a été tragique puisqu'elle a terminé internée en hôpital psychiatrique. Il faut voir le traitement qui était réservé alors dans les hôpitaux psychiatriques. On plongeait les malades en crise dans des baignoires avec des glaçons, on les ligotait et on les recouvrait avec une planche avec la tête qui sortait. Inutile de vous dire que c'était une thérapie qui faisait beaucoup de bien, n'est-ce pas? Et Nadja a terminé sa vie là, abandonnée complètement. Breton écrira d'ailleurs à la fin de Nadja un réquisitoire contre la psychiatrie tout à fait violent et bien envoyé. Donc cette femme-là, sa vie a été une tragédie, et elle aussi un peu entre le mythe d'Icare quelque part pour moi, c'est-à-dire que Breton a été un petit peu son soleil. Elle lui a dit: André, tu écriras un jour un livre sur moi, fais attention, tout passe, tout s'efface. Et à ce moment-là, Breton évidemment était bouleversé par cette femme. Il vivait alors avec Simone Kahn, qui était sa compagne, et il lui avait fait part de cette rencontre. Simone Kahn avait tout à fait compris l'enjeu qui se passait là. Il n'y a pas eu de scène de ménage de la Commedia dell'arte, hein. Ça a été tout à fait bien interprété et compris de sa part. Breton a essayé tant bien que mal d'aider Nadja, mais il était arrivé à un stade où il ne pouvait pas l'aider. Et il dira à ce propos ceci. Voilà, c'est ça quand on prépare. Voilà. J'ai pris un début de citation. J'ai pris du premier au dernier jour Nadja pour un génie libre. Quelque chose comme un de ces esprits de l'air que certaines pratiques de magie permettent momentanément de s'arracher, mais qu'il ne saurait être question de se soumettre. Elle, je sais que dans toute la force du terme, il lui est arrivé de me prendre pour un dieu, de croire que j'étais le soleil. Je me souviens de lui être apparu noir et froid comme un homme foudroyé au pied du sphinx. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans le commentaire de cette pensée, parce que ça nous mènerait très très loin, mais vous voyez un petit peu la charge qu'il y a eu entre les deux. Et pour Nadja, quelque part, Breton l'a inscrit dans le mythe d'Icare, parce qu'il l'a à la fois immortalisé. Elle est présente dans les consciences aujourd'hui, dans les manuels de littérature, mais en même temps elle s'est brûlée auprès de Breton. Il y a eu une forme de d'initiation et de mort à la fois. Et lui aussi, de toute façon, après, sa vie changera, elle ne sera plus du tout le même à partir de cette rencontre. Nadja va avoir un effet électrique dans tout le groupe surréaliste d'alors, parce qu'en fin de compte, il sera le seul à la connaître, à la rencontrer. Les autres vont vivre dans l'imaginaire, c'est-à-dire que quelque part, Nadja va devenir un mythe dans le groupe surréaliste. C'est-à-dire que d'un être vivant, elle va passer au mythe. Et chacun sera à la recherche de sa Nadja, pour le meilleur ou pour le pire, et puis quelquefois même d'une façon assez, volontaire, et à partir de là, toute magie cesse. Alors, évidemment, on peut revenir sur le thème de Nadja. Ah oui, il y avait une citation, vous avez eu le temps de la lire, je présume, tout ça, d'accord. Donc, vous voyez, là aussi, excusez-moi, vous pouvez retourner. Donc, vous voyez cette phrase-là aussi, tout ne reviendra-t-il pas à dire, en somme, à savoir qui je hante. Effectivement, Breton, toute sa vie, a été un homme très, très entouré, mais c'était un homme profondément seul, en fait. Il n'était pas solitaire, mais il était seul. Et on voit bien cette conjonction Vénus-Mars dans sa maison 4, dans le signe du Capricorne. Vénus qui est sa planète de signe ascendant. Alors, pour un homme qui était épris de beauté, d'esthétisme, de raffinement, eh bien, cette Vénus est dans le signe du Capricorne, ce signe hivernal, où la nature est rentrée, elle a froid. Cette Vénus donc, elle grelotte, elle a besoin de se construire de la chaleur autour d'elle. Elle a besoin de s'apporter un petit peu de bien-être, de chaleur. C'est la maison 4, c'est la partie intime. Pour moi, la maison 4 en astrologie, c'est un petit peu l'ascendant occulte, je l'appelle. C'est-à-dire que c'est la partie intime que l'on révèle quand on ouvre la porte de chez soi. J'emploie une image un petit peu caricaturale, mais vous voyez ce que je veux évoquer par là. Il y a cette conjonction Vénus-Mars. Vénus conjointe à Mars, c'est ce qui carré de Pluton. Ce n'est pas vraiment la position la plus confortable, la plus facile. Et il est vrai que lui qui avait tout placé dans l'amour, qui voulait, en fin de compte, c'était l'amour sublime, l'amour fou, qui sera le titre de l'un de ses livres, lui qui avait tout placé là-dedans, évidemment, c'était sans doute pour essayer de dépasser cette douleur qu'il avait là, cette Vénus-Mars qui est blessée par Mars, c'est ce qui carré à Pluton. Et sa vie sentimentale va être toujours très, très douloureuse. Ça sera même, on peut dire, une forme de désenchantement à répétition. Et cette Vénus est en secteur 4, qui est l'intérieur. Et en fin de compte, cette Vénus-là va s'incarner aussi par son lieu de vie, son atelier du 42 rue Fontaine, à Paris. Qui a été mis en vente en 2003, si ma mémoire est bonne. Cet atelier était un véritable musée. Certains l'avaient appelé un petit peu un cabinet des curiosités, mais ce n'était pas du tout cela. Vous trouviez des Dali, des Picasso, du Duchamp, des œuvres océaniennes. C'était la féerie, le creuset surréaliste était là. Tout rentrait en connexion. Puisque, en fin de compte, le surréalisme est sous une dominante, pour moi, Uranus-Neptune. Uranus, par le fait qu'il redonne à l'homme ses pleins pouvoirs, la valeur aussi révolutionnaire et insurrectionnelle du surréalisme, puisque les surréalistes se sont engagés aussi politiquement, et Neptune, qui est toute l'ouverture vers la pensée magique. Donc, il y a cette dominante Uranus-Neptune dans le thème, dans le surréalisme. Et ce que j'ai oublié de vous dire en tout début d'intervention, vous m'en excuserez, c'est que toute la génération de Breton est née sous deux cycles. Le cycle Uranus-Saturne, qui se trouvait alors dans le signe du Scorpion. C'est un cycle qui se produit tous les 45 ans. Et sous le cycle Neptune-Pluton dans le signe des Gémeaux. Alors celui-là, par contre, il se reproduit tous les 495 ans, par là à peu près.
495 ?
Non, oui, 495, 12, ça, oui. À peu près à 3 ans près. Hein. Donc, voilà la charge des cycles que cette génération a eu. Et c'est ce qui explique que depuis, on n'a pas connu de mouvement d'une telle ampleur. Parce qu'en fin de compte, nous avons Uranus-Saturne. C'est quoi ? C'est d'un côté Uranus, les valeurs d'avant-garde, d'émancipation, de nouveau. Saturne, c'est le passé, la tradition. Les deux ensemble, dans le signe du Scorpion, c'est la table rase, c'est la révolution. On s'attaque aux valeurs du père, aux valeurs de l'histoire, du passé. Neptune-Pluton en maison 8. C'est l'ouverture vers l'infiniment grand. J'aime beaucoup reprendre certains titres de recueil de poèmes d'Henri Michaud. Pluton, c'est la connaissance par les gouffres. Et Neptune, c'est le lointain intérieur. Les deux réunis, ça a été la génération qui a tout exploré, sans interdit, sans barrière. La génération de l'école psychanalytique de Paris avec René Allendy, née avec ça. René Allendy avait la conjonction Neptune-Pluton à l'ascendant en Gémeaux. C'est dans le signe mercurien du Gémeaux, c'était donc intellectuel. Il y avait un foisonnement, il y avait quand même des communications. C'est la génération qui a créé beaucoup, beaucoup de revues à l'époque. Et pour Breton, on voit ce Mercure en Verseau, qui est au trigone de la conjonction Neptune-Pluton. C'est ce qui, pour moi, peut marquer aussi cette idée de l'écriture automatique suite à la lecture. Oh là là, c'est pas vrai. Suite à la lecture, bon, mec, il me reste plus que 10 minutes. À la découverte du livre de Pierre Janet, L'automatisme psychologique, qui a donné l'idée à Breton d'utiliser l'écriture automatique à des fins poétiques et non pas à des fins spirites. Je tiens à le préciser. Alors, je m'enfuis. Il va rencontrer ensuite l'amour fou en la personne de Jacqueline Lamba. Il écrira un livre qui s'appelle L'amour fou. Je vais passer vite sur l'amour fou, c'est une catastrophe. Ah ouais, alors là, je suis vraiment là. L'amour fou, évidemment. Alors, j'aurais. Là, c'est la Jacqueline Lambay. Il y a le thème qui suit. Vous allez voir le thème de Jacqueline. C'était un sacré thème. Alors, souvent, dans la vie de Breton, j'ai remarqué que les femmes qui ont marqué sa vie étaient souvent dans l'axe taureau-scorpion. Là, nous avons Jacqueline qui a une lune en taureau et qui a un amas en scorpion. Bon. Alors, Jacqueline était une personnalité tout à fait exceptionnelle, peu manipulable, vous pouvez vous l'imaginer. Elle était danseuse aquatique. Breton l'a découverte comme ça, faisant ses ballets aquatiques. Une femme, c'était l'amour fou, mais c'était la femme qu'on ne pouvait pas plier à sa volonté non plus. Donc, quelque part, elle a symbolisé aussi ce féminin libre. Alors, pour Breton, ça a été fascinant, mais ça a été aussi très compliqué. Évidemment, cette femme-là l'a plongée dans sa problématique Vénus-Mars-Capricorne, c'est ce qui carrait Pluton. C'est-à-dire que quelque part, elle était là pour l'aider sans doute à dépasser ça, mais elle l'a placée aussi au cœur de cette difficulté et de cette souffrance. Parce que quand vous voyez un petit peu la structure du thème, vous imaginez que c'était pas une femme à adresser le couvert tous les soirs, ou quoi que ce soit. Hein. C'était pas possible. Donc c'est une personnalité extrêmement intéressante, qu'on a un peu trop oubliée à mon goût, et il y a eu un très beau livre qui a été écrit dernièrement par une écrivaine italienne, Alba Romano Pace, qui a écrit une biographie sur Jacqueline Lambay, qui a été publiée chez Gallimard, que je vous invite à lire. C'est actuellement la seule étude qui a été faite sur elle. Alors, c'est donc l'amour fou pour Breton. La rencontre de Jacqueline va marquer une étape encore importante dans sa vie de l'amour fou. Il aura sa fille avec elle, qu'il prénommera Aube, à laquelle il destinera une lettre qui conclut son livre L'amour fou, qui est absolument magnifique, qui s'appelle Écusette de Noireuil, donc Noisette d'écureuil. Lui qui disait, étant incapable de faire des anagrammes, il en a fait un magnifique. J'ai mis des années à le décoder. Moi qui adore jongler avec les mots. Et c'est tellement beau, Écusette de Noireuil, que j'ai cherché Écusette, j'ai cherché Noireuil, et je ne trouvais pas. Et un jour, je me suis dit, oui, mais c'est Noisette d'écureuil, bien sûr. Mais l'évocation était tellement belle en soi que je n'ai pas cherché plus loin. Enfin, alors, on va avancer, parce que maintenant, il ne doit rester plus que 5 minutes. Et je voudrais qu'on arrive... on va arriver quand même à Arcane 17, je vais quand même vous en parler. Vu qu'on arrive à Arcane 17. Alors, Arcane 17 est pour moi le livre le plus... C'est pour moi mon livre phare. C'est, à mes yeux, le livre qui ramasse tout ce qu'est André Breton, son univers intérieur, sa vie, sa vision, tout est là. Alors, Arcane 17, c'est son dernier livre majeur. C'est un livre aussi qui se construit sur la souffrance. Il va rencontrer, lors de son exil à New York durant la Seconde Guerre mondiale, il va rencontrer sa dernière compagne, qui s'appelle Elisa Kahlo, je crois, ou quelque chose comme ça. Il la rencontre dans un café de la 56e avenue à New York, et il voit cette femme très belle et à la fois désespérée. Il va la voir, et cette femme vivait un malheur, elle venait de perdre sa fille, des suites d'une noyade. Et lui était seul, puisque sa relation à ce moment-là avec Jacqueline battait de l'aile, il était tout seul. Ce sont donc deux êtres marqués par une souffrance, chacune différente, qui se rencontrent. Et Elisa va être l'Arcane 17. Ça va être Mélusine, donc je ne vais pas m'attarder sur le mythe de Mélusine, Catherine nous en a parlé hier, puis je n'ai plus le temps, ça nous mènerait trop loin. L'arcane 17, eh bien, c'est en même temps l'arcane de la transmission, c'est l'éternel féminin. Dans le tarot de Marseille, c'est les trois lames du ciel, l'étoile, la lune et le soleil, elles se suivent, la 17, la 18, la 19. C'est la constellation de la Pléiade, c'est Ishtar, c'est l'eau qui est déversée de ces deux amphores, c'est la transmission, c'est la connaissance. Dans le tarot, vous avez l'arcane 14, la tempérance, qui est un personnage ailé, qui déverse de l'eau d'une amphore à l'autre. C'est-à-dire que l'eau ne trouve pas encore sa voie. Il y a un passage là, une réflexion. Les vases communiquent, mais encore, ils ne trouvent pas leur direction. Dans l'arcane 17, la direction est donnée. On transmet quelque chose. Et alors évidemment, là, je parle de l'arcane du tarot de Marseille. Breton, lui, a travaillé sur l'arcane du tarot de Swallowers. Le tarot des Imagiers et des Templiers. Moi, j'ai mis celle-ci parce que je travaille avec le tarot de Marseille. Hein. Je tiens à le préciser, pour ceux qui liraient Arcane 17, c'est pas cet arcane-là qui sert de support, c'est pas la même. Hein. Mais toujours est-il que dans la symbolique, on retrouve la même. C'est la femme initiatrice. C'est la femme qui ouvre la voie. Et dans le tarot de Marseille, le premier arcane, c'est le battleur, et le second, c'est la papesse, qui a le livre ouvert. C'est une femme qui ouvre la voie de la transmission, de l'initiation. Parce que c'est notre éternel féminin qui est sollicité, autant chez l'homme que chez la femme. Nous venons tous du monde, nous venons tous de la lune, parce que lorsque nous sommes dans le ventre de notre maman, nous sommes dans le monde de la lune, à la fois dans le sens propre et dans le sens métaphorique. Et lorsque nous sommes projetés sur cette satanée terre, nous passons d'un état de nuit à un état de jour. C'est-à-dire que nous sommes tous des enfants de la lune. C'est pour ça que dans un thème astrologique, la lune est très importante. Elle marque le point d'ancrage, le point d'équilibre. Et si on utilise l'astronomie comme réflexion analogique, la Lune, c'est le satellite de la Terre. Si la Terre ne perd pas la boule, c'est grâce à la Lune. C'est la Lune qui crée notre équilibre. C'est-à-dire que tous les matins, quand nous nous réveillons, que nous venons du monde de la Lune, et qu'on peut se tenir vertical sur cette satanée Terre, ben c'est grâce à la Lune. Donc elle joue à tous les niveaux. Elle joue à la fois sur le plan physique, sur le plan symbolique. Elle est là, elle est très importante. Et l'arcane 17, c'est ça, c'est le retour à notre nuit intérieure, car nous sommes tous des êtres de nuit. Et pour conclure, parce que je pense qu'il faut que je conclue, hein, ouais, il reste 1 minute 30.
C'est terrible d'être gardienne du temps.
Vraiment, en même temps, c'est agréable. Hein. C'est bon. Hein. C'est un scorpion qui dit ça.
Mais un scorpion qui parle au Verseau.
Alors, je voudrais conclure par cette pensée d'André Breton, qui je trouve très, très 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 belle, et je vais conclure par ces paroles. Début de citation. J'ai parlé d'un certain point sublime dans la montagne. Il ne fut jamais question de m'établir à demeure en ce point. Il eut d'ailleurs, à partir de là, cessé d'être sublime et j'eusse, moi, cessé d'être un homme. Faute de pouvoir m'y fixer, je ne m'en suis du moins jamais écarté jusqu'à le perdre de vue, jusqu'à ne plus pouvoir le montrer. J'avais choisi d'être ce guide. Je m'étais astreint en conséquence à ne pas démériter de la puissance qui, dans la direction de l'amour éternel, m'avait fait voir et accordé le privilège plus rare de faire voir. Je n'en ai jamais démérité, je n'ai jamais cessé de ne faire qu'un de la chair de l'être que j'aime et de la neige des cimes au soleil levant. Voilà, merci.
Eh bien, on peut remercier Fabrice pour cette belle intervention. Et maintenant, donc, nous avons une pause jusqu'à...